Cette présentation, ce sera aura un peu de caractère de l'essai. Donc, cherchez pas une valeur scientifique trop, parce que ça pourrait vous insatisfaire, en fait. Puis donc, je désire un peu enfin une bouteille à la mer, lancée dans l'espoir que m'entende, donc c'est là même que j'appelle d'ici et que je crois percevoir s'agiter de l'autre côté de la vie. Donc, le terme ingouvernable, je commence avec lui. Il tient sa source dans une empreinte technique du mot grec kubernan, issu très précisément de l'aéronautique et signifiant diriger un navire. Gouverner au sens politique donc renvoie irrémédiablement à l'acte de donner une direction, un sens, une orientation. La femme ingouvernable serait donc celle au contact de laquelle la direction s'étiole, perd sa valeur d'effectivité et est rejetée. Il y a donc un défaut de réception. Est-ce parce qu'elle est malade, stupide, bête, ou autrement dit socialement indomptable, hystérique ou mal élevée? La famille dont elle provient a-t-elle échoué à sa fonction, c'est-à-dire celle de réaliser le processus de répression? Est-ce plutôt parce que la femme indomptable nie la direction qui lui est imposée dans une perspective active et assumée de résistance? Bon, pourquoi pas? Est-elle ultimement celle qui ne peut se gouverner elle-même? Ces questions sont d'autant plus ardues à répondre que la figure de la femme résistante, féministe, révolutionnaire, a fait l'objet d'une récupération délibérée, devenue un archétype incontournable de l'industrie culturelle, vous le savez très bien ici. Par le fait même, cette figure en est venue à habiter nos chairs, nos imaginations, sous des formes toujours plus variées, mais aussi de manière à embrouiller la valeur de la résistance féminine. À Olympe de Gouges et Frida Kahlo se substituent maladroitement Lady Gaga et The Bitch in Apartment 23. Et quoi qu'il en soit, qu'on la reconnaisse ou non, qu'on la consomme ou non, la femme ingouvernable se donne comme existante donc, au sein du paysage contemporain. Cette existence m'intéresse, mais surtout de savoir sous quelle modalité, finalement, elle existe. Pour répondre à cette question, la première arme dont je souhaite me prémunir, ce serait, au fond, celle-ci. Devant la notion à connotation infiniment spatiale que constitue le verbe « gouverner », je propose d'inscrire la femme ingouvernable dans une double possibilité, une sorte de faux dilemme visant une analyse efficace. D'abord, la femme ingouvernable comme symptôme de notre époque visible via la réappropriation de codes bien installés dans la culture. Celle-ci aurait pour spécificité de ne point échapper à la domination patriarcale, même là où elle prétend le faire. Elle est encore prisonnière d'un désir qui n'est pas le sien. Ensuite, la femme ingouvernable comme lieu d'une ouverture, en tant que figure apte à s'engager toujours plus avant et de son propre gré en une recherche vitale, celle-là même qu'oblige le refus conscient d'être gouvernée par des autorités symboliques, économiques et politiques. Au pouvoir indu, à savoir celle qui s'impose dans le système capitaliste. Et donc, autrement dit, elle est celle qui, cherchant à se diriger elle-même, on pense presque à quelque chose comme une figure de pensée par soi-même, même ou une sorte de figure autonome, au sens philosophique du terme, elle se fait navigatrice en dehors des eaux des violences du désir patriarcal. Et c'est là que ça m'intéresse le plus, parce qu'elle risquerait peut-être de découvrir ou d'y découvrir les contours d'un désir qui, parce que trop longtemps encore, trop peu encore exploré, reste peut-être pour ainsi dire inconnue, à savoir le désir féminin. Oui, c'est une de mes hypothèses, peut-être qu'on n'a pas encore tout à fait découvert quelque chose comme le désir féminin. Donc, avant de plonger dans l'analyse d'exemples concrets, j'aimerais souhaiter apporter quelques clarifications conceptuelles. D'abord, je veux préciser minimalement le sens du terme patriarcat, patriarcal même, parce qu'il semble souvent aller de soi, et quand on fait référence au système capitaliste, on le prend pour acquis. J'aimerais juste préciser ici qu'il renvoie nécessairement à une structure symbolique dans laquelle la puissance du père prédomine, évidemment, voire écrase, écrapoutille. Concrètement, le système patriarcal est le produit d'une histoire dans laquelle les hommes ont joué le premier rôle, évidemment, sur le plan de la direction politique. Puis sur le plan économique, ce système est patriarcal en tant que la condition de possibilité de sa réalisation historique repose sur la réduction des femmes à l'esclavage, telle que l'a confirmé très brillamment Silvia Federici, donc Caliban et la sorcière. Donc, sans le travail domestique des femmes, la consolidation du capitalisme est ainsi dire indispensable. Or ici en Occident, bien que l'esclavage des femmes est une affaire révolue, si on admet que la rémunération minimale n'est pas une réalité d'esclaves, donc, et la question est justement de savoir si à l'heure actuelle, à laquelle les femmes ont intégré le marché du travail, de la production capitaliste et qui opèrent ailleurs des postes de toujours de plus en plus importants. Si elles œuvrent activement à leur émancipation, si elles perpétuent la tendance qui consiste à reléguer le pouvoir créateur féminin dans l'arrière-monde, où ils sont perpétuellement renvoyés. Ce problème est d'autant plus important, me semble-t-il, que, comme le pense le psychanalyste Gérard Pommier, qui m'a beaucoup aidé à réfléchir, même s'il fait beaucoup d'erreurs en mon sens. Donc, l'histoire du pouvoir masculin s'exerça en contrepoint d'une angoisse du féminin, et donc de son pouvoir, de son désir, de son devenir. Puis je propose donc de comprendre avec lui que le pouvoir de la femme n'est pas juste une réalité qu'il s'agit d'inventer, d'actualiser, mais aussi une réalité historiquement réprimée, répression qui coïncide avec la répression du désir de l'homme, mais qui a aussi eu ses lots de manifestations. Bref, ça c'est la question historique que je ne traiterai que trop peu ici. Donc, la libération du désir féminin se donnerait comme unique avenue pour le dépassement, évidemment, d'une telle angoisse abyssale, profonde et destructrice, mais aussi comme condition de possibilité pour la révolution. C'est la thèse de Pommier. Il n'est donc point ici question de tirer à bout portant sur les hommes, mais bien de distinguer le désir de l'homme en tant que construction historique telle qu'il se manifeste dans le système capitaliste ultimement, du désir de l'homme comme cette force réinventée qui naît finalement de la recherche du désir féminin. Désir qui a douloureusement peiné finalement historiquement à s'émanciper, je le répète. En effet, l'insistance sur le désir féminin est d'autant plus riche dans cette perspective que, comme insiste Pommier, la force brute mise au service de la répression du désir universellement est universellement incarnée par le féminin. Donc, bon, puis en plus, dans une perspective plus spinoziste, je dirais que le désir est ce vers quoi on est tendu et c'est non pas un principe d'espérance. Donc, le désir est aussi une affaire de direction. Alors voilà. Mais voyons maintenant comment dans la culture contemporaine se présente dans certains le motif de la femme ingouvernable, qui m'intéresse de vous exposer ici, puis de voir de quel désir est-il l'expression. Donc, il faudra toujours distinguer les logiques, évidemment, de production de l'industrie culturelle des contenus eux-mêmes. Puis je pourrais éviter tous les détours en disant que peu importe ce qu'elles racontent, finalement, ces gonzesses pompées dans l'industrie, leur révolte n'a aucune valeur dans la mesure où elles sont au service, finalement, d'une machine mercantile et patriarcale. Mais évidemment, comme nous savons, puis je le confirmerai avec quelques exemples, les logiques de production de la culture populaire n'échappent pas, elles, à la récupération progressive des codes de la contre-culture. Et il serait bien dommage de fuir trop vite l'éventualité d'une compréhension plus approfondie du pouvoir symbolique des contenus produits et qui sont véhiculés à travers les femmes ingouvernables de cette industrie. Et je dirais que ces contenus sont efficaces en eux-mêmes. Alors voyons cela. Ah oui, puis avant, je ne veux pas oublier de vous dire que donc, je me suis concentrée sur les chanteuses en tant qu'elles sont des personnages qui sont consolidés dans le processus marketing qui est, lui, intégralement réfléchi. Puis donc, la construction de ces personnages est cohérente. Leur évolution sur une ligne de temps est donnée en récit qui est perceptible. Donc, elles ont une histoire. Puis donc, ces constructions facilitent évidemment la production signifiante d'une psychologie qui est en développement, qui est compréhensible, bien qu'elle soit pauvre, là, souvent, et très facile à comprendre. Puis donc, la figure de l'adolescente, il joue toujours évidemment un rôle primordial. Puis le jeu évolutif permet d'inscrire des points de rupture. Autrement dit, d'inscrire, dans le fond, dans une histoire, la révolte de la protagoniste. Ça, c'est super important, comme un passage obligé. T'sais. Donc, le cas de Miley Cyrus et Astiga, évidemment, fascinant. Comme les jeunes adeptes de Hannah Montana ont même pu expérimenter, si on veut, la rupture en même temps qu'elle, en vieillissant, par exemple, avec elle, etc. Donc, c'est très important, donc, ces points de rupture. Donc, c'est avec Britney Spears que je veux commencer. Donc, en 2001, je vous rappelle, elle apparaît en Haillon Rose dans cette vidéo « I'm a slave for you ». Et bon, évidemment, elle est loin de se présenter comme une figure en pleine maîtrise d'elle-même, mais elle se présente, en effet, elle se présente en, très littéralement en esclave. Mais son discours entre en contradiction de façon vraiment tordue avec le caractère provocateur, finalement, de son comportement, son accoutrement, lequel se veut, finalement, comme l'expression de ce qu'on connaît comme une, soi-disant, révolution sexuelle. Donc, la jeune adolescente, not yet a woman, assume enfin ses pulsions au-delà d'une vision perdue de l'amour qu'elle manifestait finalement dans Hit Me Baby One More Time. Donc, la jeune pucelle devient finalement une esclave assumée. Donc, son choix de jouer le jeu devient la source finalement de son pouvoir, celui de réaliser son désir amoureux perverti. Mais Britney choisit-elle vraiment quoi que ce soit? Évidemment, elle le dit elle-même, elle ne peut se contrôler. I cannot control it, I can't hold it. Donc, la pulsion est plus forte qu'elle. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pulsion, finalement, est indiscernable du personnage de Britney, dans la mesure où sa réalisation de femme, son entrée dans le monde, finalement, dépend de la réalisation de sa pulsion. Puis donc, c'est ça. Donc, elle parle vraiment d'entrer dans le monde, etc. Il faudra tout, le monde ici, tout de même retenir ici que le désir en jeu est présenté comme innocent, évidemment, et irréfléchi. Puis que l'emploi du terme esclave, par contre, rend absolument clair une chose, malgré toutes les ambiguïtés envisageables, c'est-à-dire que le désir de Britney, évidemment, se fond dans celui de l'homme, qui est le véritable maître. Puis il y a quelque chose de quand même assez intéressant dans ce problème de la révolution sexuelle, j'y reviens. Donc, de l'hypersexualisation de la femme comme expression d'une soi-disant libération de son désir et comme expression du pouvoir féminin, on pourrait évidemment multiplier les exemples. Puis je pense qu'avec Iggy Azalea, il y a une matière à rencontrer une véritable défenseur de cette libération, culture de l'indomptable, de l'ingouvernable et du renversement des rôles féminins et masculins. La vidéo d'Iggy ne répond pas au même type de construction narrative. Hein? Dès sa sortie au sein de l'industrie culturelle, Iggy est déjà radical, légitimé d'abord par les, si on veut, les forces irrévérencieuses issues de la culture hip-hop, dont elle cultive évidemment le prolongement, mais de manière très inusitée, disons-le. Donc tout commence avec cette vidéo qui s'appelle Pussy. Je ne vous montre pas des vidéos parce que ben, vous pourriez, mais ça, à cause du temps, le peu de temps que j'ai, donc. Puis donc nous pourrions en parler de cette chanson comme une sorte de mode d'emploi où Iggy finalement donne une sorte, un nombre d'ordres qui organise finalement la tenue du cunnilingus et donc elle célèbre aussi son vagin en toute puissance, lequel même Abraham Lincoln ne pourrait résister, etc. Cela dit, les images, elles, évidemment, nous disent autre chose. Outre l'usage du jeune garçon qui redouvre finalement le prétendu pouvoir d'Iggy sur la jante masculine, donc le jeune garçon soumis qui joue au cheval puis qui rentre dans le jeu d'Iggy, le retour incessant des signes de la domination du masculin et de la jouissance de l'homme, donc c'est-à-dire le chien en laisse tenu par un homme qui n'est d'aucune manière secoué, c'est-à-dire tout est en ordre, là. Le popsicle, l'arrosoir, série d'images à l'intérieur de laquelle finalement les comportements des femmes en série qui plus est vient s'inscrire pour consolider finalement le désir des hommes comme objet d'une perte et comme espace fantasmagorique pour vraiment réinventer. Elle en est la maître et encore toujours, finalement, l'esclave. Je vais un petit peu plus loin avec Iggy, la chanson « Work », qui est peut-être encore plus révélatrice de la fonction du comportement sexuel de la femme en tant qu'il est assumé comme marchandise, avec une valeur d'échange, évidemment. Donc, la sexualité d'Iggy est extensivement celle de la femme, il est présenté comme une force productive même. Il est encore plus aisé de voir comment son personnage se libère pour mieux se soumettre. Ça, c'est vraiment facile de le comprendre. Donc, ici, Iggy fait référence à son passé, celui évidemment auquel elle a échappé. Son histoire en est une de self-made woman, une histoire de réussite individuelle, mais au ton évidemment cynique, désabusé. Iggy conserve ses origines de white trash, tout en les mettant à distance. Donc, la pauvreté qu'elle a connue l'a formée. Son système de valeurs inscrit la notion de travail en son cœur. Le travail est présenté comme condition de la sortie de la pauvreté. Donc, l'accumulation des pièces, le patriarcat, non seulement sont valorisés ici, mais le schéma d'Iggy cristallise même la valeur de la femme fondée sur son ouvrage sexuel. Donc, Iggy incarne la Valley Girl giving blowjobs for Louboutins. Donc, les Louboutins, c'est des talons hauts assez connus qui coûtent très cher. Donc, le désir d'Iggy et le désir du patriarcat réalisé, finalement, la femme jouit du travail qui la soumet et de la haine de la femme. Donc, la forme du rap ici est complètement dénaturée. Il vient conjurer pourtant son sort à la perfection parce qu'on rappelle que cet art-là a été inventé pour dénoncer les injustices sociales. Puis il est ici utilisé finalement dans une perspective dénonciatrice douteuse ou en temps, dans la mesure où elles sont aussi valorisées, ces injustices sociales, dans la mesure où Iggy, elle en bénéficie. Donc, le référent de la jeune fille désavantagée par la société est donc est instrumentalisé au profit du système qui lui fait violence. Ce qui est doublement trash, à mon sens. Mais bon, Iggy est un symptôme, pourtant, là, on va le dire, plutôt et même un produit. Donc, c'est l'industrie culturelle en tant qu'espace objectif de la société, donc il faut évidemment dénoncer comme ce qui légitime une telle possibilité en l'actualisant. Il est donc pas ici question de mépriser une autre femme, encore une fois, mais juste de nommer le fait qu'elle a ressenti la nécessité de se vendre encore pour faire sa place dans le monde. Puis je pense à toutes ces jeunes filles qui, finalement, qui viennent de milieux très pauvres et qui ont à réalisés, qui en viennent là, puis qui sont pris devant cette industrie, puis qui y trouvent peut-être justement la source de puissance très problématique. Donc, le cas de Beyoncé est peut-être, à mon sens, le plus évidemment controversé des femmes. On rentre vraiment dans le cœur du sujet, à mon sens. Ingouvernable à la culture populaire. Beyoncé, elle commence sa vie en chantant du R&B à caractère ordinaire, tu sais, un peu naïf, whatever. Et sans qu'on puisse se douter finalement de la fougue dont elle va faire preuve avec les années qui vont passer. On comprend bien a posteriori comment son attitude de badass lui permet toutefois de ne pas perdre son sang-froid dans une industrie dévorante. Elle se manifeste toujours plus solide et affirmative, elle s'allie à Jay-Z, devient même actrice active de l'industrie musicale. Elle a plus depuis longtemps dépassé le statut de simple instrument. Beyoncé propose une totale expression de son caractère ingouvernable. Lorsqu'en 2016, pour se venger évidemment des infidélités de Jay-Z, vous connaissez sûrement l'histoire, elle sort Lemonade. Et dans ce processus-là, Beyoncé, elle n'hésite pas à mobiliser les référents tirés du domaine des luttes antiracistes et féministes, mais aussi les codes de la danse, de l'art contemporain. Elle s'approprie les motifs de lutte et considérée comme vraiment très cool, bad par plusieurs filles dans mon entourage que je considère très intelligente et critique. Donc, il y a une efficace incroyable à son travail. Puis, en ce sens, je pense que l'ambiguïté est à son comble. Mais l'inévitable constat, selon moi, est le suivant. Ces référents de lutte deviennent des valeurs marchandes. Et donc, leur puissance symbolique est assimilable. Puis, comme dirait Marx à la fin de la journée, quelle que soit la marchandise, tant qu'elle se vend, puis qu'elle participe au réseau d'échange, ça reste une marchandise. Donc, c'est dans cette perspective-là que j'essaie de faire comprendre, au fond, que cette idée des valeurs symboliques sont aussi des valeurs marchandes quand c'est question de lutte dans le milieu de l'industrie culturelle. Donc, puis dans la chanson Formation, qui appelle les ladies à s'éduquer, Beyoncé, à la fois fière d'être noire, comme nous dit le premier paragraphe, fière, finalement, dans un contexte aussi de relance, évidemment, des mouvements noirs aux États-Unis. D'ailleurs, même quand elle interprète la chanson au Super Bowl, elle et ses danseurs sont habillés en Black Panthers. Évidemment, elle conserve là le motif de la femme sexuellement toute puissante qui exige de jouir, celui de la femme travaillante. Donc ici, quand elle dit « When he fuck me good, I take his ass to Red Lobsters because I slay ».« I slay », ça veut dire « je tue ». If he hit it right, I might take him on a flight on my chopper. Fait que ça veut dire que, tu sais, you better give it to me, tu sais. Puis là, après ça, il y a la question, c'est ça, donc, l'autre, la question du travail, donc. I see it, I want it, I stunt, yellow bonnet, I dream it, I work hard, I grind till I own it. Fait que c'est comme encore cette idée de je travaille, puis évidemment, Rihanna, il y en a tellement cette figure du work, puis je travaille, puis comment c'est comme branché sur la question sexuelle, c'est. C'est fantastique l'efficace de ça. Donc, après ça, il y a aussi le fait que, donc, mais le plus important, donc, elle ne masque pas la quête de puissance à la Juliette, presque, j'ai envie de dire, au sens de la Juliette de Sade, qui est celle du capitaliste. Donc, cette chanson-là, évidemment, I might get your song played on the radio station, c'est le côté où Beyoncé, finalement, est devenue une puissance de l'industrie en elle-même, comme productrice. Puis ensuite, ici, on a. You might be a black Bill Gates in the making, I might be a black Bill Gates in the making. Fait qu'elle appelle les jeunes filles à se former dans une perspective où quoi? Elle appelle finalement, et puis en mobilisant encore une fois les luttes pour dire, ben, ce qui est en jeu finalement, c'est l'accumulation de capital. Puis une accumulation de capital qui, à mon sens, est d'autant plus problématique parce qu'elle se présente toujours plus clairement de Britney à Beyoncé. Comme une sorte de condition de l'excitation féminine, voire de sa jouissance. Puis si on est, en fait, pour moi, c'est tellement important de saisir, de cerner là où il y a une sorte d'oubli, une sorte de complètement une perte, finalement, très souvent, je l'entends autour de moi, une sorte d'oubli des luttes de classe, dans la perspective des luttes féministes, etc. Puis si on est incapable de nommer le moment où finalement c'est oublié, ben, on peut facilement, finalement, trouver Beyoncé comme une femme super puissante qui est inspirante, puis qui, au fond, est présentable à des enfants, puis de dire, regardez, les enfants, Beyoncé, c'est le bien, etc. Ben, peu importe, bien, mal, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si on est incapable de montrer là où, au final, Beyoncé se gouverne-t-elle elle-même, est-elle vraiment une ingouvernable ou est-elle sous la gouverne du capitalisme qui est, au final, le vrai problème de notre société. Donc, grosso modo, ce que j'appelle, ce que je demande, ce que je questionne, puis ce qui m'intéresse de réfléchir avec vous, c'est de réfléchir à la question d'une écriture qui, elle, serait consciente de ce problème-là, qui serait, puis sans justement cracher sur les figures, les puissances qui se manifestent à travers ces femmes-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire que finalement le sexe n'a aucune puissance, puis que c'est, ou de dire que les femmes, la beauté féminine n'est pas un instrument de pouvoir, etc. Il est question de plutôt de voir comment toutes ces forces-là, les forces maintenant symboliques des luttes, sont mobilisées dans une perspective qui est extrêmement problématique. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, c'est donc cette idée, cette question de voir est-ce qu'il est possible finalement de se gouverner soi-même dans une perspective de négation finalement de cette ambition démesurée qui est celle d'une femme qui apparaît aussi dans le milieu du travail. Hein, puis tantôt dans tes poèmes aussi, je t'entendais, il y a des recoupements intéressants. Puis je pense que c'est ça, une femme comme Sheryl Sandberg, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, qui est une femme finalement qui est comme super haut placée dans Facebook, puis qui est partie un mouvement via l'édition notamment d'un livre qui s'appelle Lean In, qui au fond est aussi une perspective qui ouvre aussi sur une perspective éducative, donc des jeunes, des femmes, qui elle les appelle finalement à prendre place dans cette société, puis à devenir des femmes puissantes, puis à devenir finalement, à assumer qu'elles peuvent occuper des places de leader. Puis donc moi, ma question, c'est est-ce que la femme n'est pas, dans son corps même, historiquement, même j'irais dire ontologiquement, n'est-elle pas une sorte d'ouverture, donc un corps fissuré, puis qui existe, puis qui peut ouvrir à autre chose que ce système-là? Mais en fait, est-ce que c'est pas la responsabilité presque de la femme que de dire le monde dans lequel je suis est un homme, est un monde dans lequel même le désir masculin finalement est perdu, comme je disais tout à l'heure, même le désir masculin peine à se réaliser, où la jouissance masculine est toujours branchée finalement sur la violence. La jouissance dépend d'une violence faite envers les femmes. Puis que la femme finalement peut même en venir à endosser. Donc à partir de là, qu'est-ce que serait une écriture à partir de laquelle les modalités d'existence dépassent finalement, sont empoignées de façon vraiment très riche. Quand je dis modalités d'existence, je me réfère vraiment à la philosophie de Suryo, qui est un penseur qui a été récemment redécouvert par Lapujade, donc dans un livre qui s'appelle les existences moindres, qui est un livre merveilleux, et qui finalement traite... c'est un livre très complexe, je ne veux pas rentrer trop dans la complexité, mais je veux au moins essayer de mobiliser certains concepts qui pourraient être intéressants ici, notamment celui dans la perspective où on a une absence de direction, etc., dans une perspective de recherche ouverte. Suryo fait référence à ce qu'il appelle les modalités d'existence. Donc, il va dire que chaque chose qui existe, existe selon différentes modalités. Et donc, que certaines de ces modalités-là se réalisent plus que d'autres. Non seulement ça, qu'il existe socialement peu d'espace pour certaines choses qui existent, elles, comme dans un autre monde, et qui appelleraient finalement à exister plus pleinement. Puis c'est intéressant parce que c'est beaucoup cette formule-là que vous utilisez dans la présentation du colloque, cette idée de se réaliser finalement, de prendre plus de réalité dans le monde. Puis donc, moi je pense que c'est intéressant parce que autant il y a quelque chose du mouvement des femmes qui cherchent à prendre puissance, même dans les milieux de l'industrie culturelle, qui finalement sont la démonstration d'une puissance, mais qui appellent notamment la réalisation de la valeur symbolique de certaines choses, comme parmi lesquelles les luttes. Elles ont une valeur, la preuve, c'est que même l'industrie culturelle peut les mobiliser. Mais non seulement ça, que de devenir femme, le fait de devenir femme appelle toujours à une sorte d'étrange phénomène qui est celui de... C'est même Beyoncé, quand on a vu Beyoncé apparaître, tout ça, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'ils viennent installer quelque chose de nouveau socialement, qui n'avait pas sa place avant. Quand Christina Aguilera est apparue dans l'industrie culturelle, c'est comme « wow », tranquillement, l'industrie culturelle, tranquillement, commence à accepter, à recevoir un certain nombre de choses qui, auparavant, n'étaient pas reçues. Mais comment se fait-il que toujours et systématiquement, l'écriture, finalement, rend impossible l'accueil des enjeux qui sont plus celles du désir féminin qui est encore non découvert, etc. Comment ça se fait qu'on oublie, on nie finalement le problème qui se passe dans l'enjeu du capitalisme? Et évidemment, c'est ça qu'il s'agit de savoir pour moi. c'est de voir si, un, des modalités qui m'intéresseraient d'explorer, savoir un savoir de l'industrie, donc où la femme, finalement, s'attaque à l'industrie même. Je pense qu'on peut penser à MIA, qui a été une figure qui s'est attaquée à l'industrie en faisant des collaborations avec des micro-producteurs un peu partout à travers le monde. Donc, elle s'en est pris au dispositif de l'industrie lui-même. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ensuite, il y a aussi Monica Bellucci qui, dans la même perspective, est une actrice qui travaille en collaboration avec des réalisateurs de petits pays, tout en mobilisant le symbole, la grosse force symbolique de Hollywood. Donc, elle redonne du pouvoir à ces petits-là en travaillant avec les grands. Donc, il y a comme une espèce de jeu de balance qui est vraiment intéressant. Ensuite, donc, au-delà de cette modalité-là, donc, ce que je propose, c'est de dire qu'il ne suffirait pas d'un bord ni de se retirer de l'industrie pour aller créer une espèce de quelque chose en dehors, parce que c'est une vieille tension pour les artistes, donc, ni de se prétendre en dehors puis de crier, ni de se prétendre en dehors et ni de crier qu'on va infiltrer le système finalement pour mieux le détruire. L'idée, c'est plutôt de penser à apprendre à vivre en faisant entrer dans le monde tranquillement des choses qui n'ont pas nécessairement le droit d'exister, puis dans une espèce de mouvement complexe qui est une recherche d'orientation de soi dans le monde, du désir aussi, une recherche de désir, de voir qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on peut faire valoir, comment on peut ouvrir les espaces du langage ici, tranquillement, comment dire, ah, ce mot-là, d'habitude, on ne l'utilise pas, mais on va voir comment on peut l'utiliser. Puis je pense que de toute façon, quelque chose de l'industrie du livre, de tout ça, accueille déjà ces possibilités-là. Donc voilà, je pense que je vais m'en tenir à ça. C'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.